Je vote pour la science avec Isabelle Burgon.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Les épisodes d'inondations d'août dernier nous rappellent de mauvais souvenirs. Cet été, 43 municipalités québécoises ont subi des dommages et une personne a perdu la vie. Les images restent vives, des sous-sols inondés, de nombreux déchets qui jalonnent les routes, des gens désespérés. Alors se pose la question, comment faire face aux épisodes d'inondations de plus en plus fréquents et intenses qui surviennent en raison des changements climatiques? Le gouvernement québécois se prépare à adopter une nouvelle cartographie des zones inondables, ce qui fait déjà grincer certaines dents. Pourtant, il importe de mieux s'y préparer et surtout de mieux construire. Les villes ont là un rôle à jouer pour encourager les bonnes pratiques, tout comme les architectes et même les assureurs. Il faudra peut-être renoncer à nos sous-sols ou apprendre à vivre dans des maisons conçues différemment. Alors comment pouvons-nous bâtir pour mieux faire face aux inondations? Nous en parlons tout de suite. Restez là. À Je vote pour la science, nous voulons revenir sur les inondations, les dommages qu'elles causent à nos maisons, en plus d'occasionner des décès et de la détresse, nous demander si nous pourrions construire autrement ou ailleurs dans des zones moins inondables. Donc pour en parler, je suis aujourd'hui en compagnie d'Hélène Levasseur, directrice recherche et éducation chez Architecture sans frontières Québec. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Bernard Deschamps, ex-dirigeant de compagnie d'assurance et doctorant en sciences de l'environnement de l'UQAM. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Marco Lassalle, directeur du service technique et rénovation de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, la PCHQ. Bonjour.
Salutations.
Le passage de la tempête Déby a provoqué d'importantes inondations au Québec en août dernier. Près de 43 municipalités ont été touchées, dont Saint-Charles, Borromée, dans la Lanaudière, Trois-Rivières en Mauricie ou encore Drummondville au centre du Québec. Pour commencer, quel bilan peut-on faire donc des récents événements? Peut-être Monsieur Deschamps.
Oui, mais en fait, vous l'avez mentionné en introduction, les inondations ont des conséquences économiques, mais aussi des conséquences sociales qui sont largement sous-estimées. Si on fait un bilan là très rapide des dernières années, à commencer par 2017, il y a environ 300 municipalités là qui avaient été touchées. En 2019, 240, 2023, plus d'une centaine. Et là, maintenant, on parle de 40 ou 55. Là.
Ça fait beaucoup, hein, quand
oui,
même?
Oui, ça fait beaucoup de monde qui sont affectés, qui sont déplacés, qui sont temporairement déménagés et qui doivent aussi souvent reconstruire et réparer là, les dommages. Évidemment, ça chiffre en centaines de millions et on parle même là, que Déby aurait causé environ 2,5 milliards de dommages. Là.
C'est énorme.
C'est difficile, honnêtement, faut faire attention avec tous ces chiffres-là parce que c'est très difficile de comptabiliser les dommages, mais ça donne une ordre de grandeur là, par rapport aux autres inondations. Le gouvernement du Québec mentionnait que 2017-2019 avait coûté environ 1 milliard. Là aussi, c'est à prendre avec
des pincettes,
mais quand même, on voit l'ampleur, là, on voit que ça coûte de plus en plus cher et non seulement il y a l'argent, mais il y a aussi les conséquences qui sont largement sous-estimées.
La détresse aussi.
Oui, tout à fait.
Monsieur Lassalle, du côté du bâti, qu'est-ce que ça nous dit sur la manière dont on construit jusqu'à présent?
On construit systématiquement des sous-sols, on ne s'interroge pas. Sans dire, parce qu'il y a déjà des discussions présentement, est-ce qu'on doit faire des sous-sols ou pas?
Oui, on va en parler.
La vérité est pas, c'est pas un absolu, c'est pas un go partout et c'est pas un non nécessairement partout. Il y a des avantages et des inconvénients. Par contre, on bâtit des sous-sols de la même façon qu'on bâtit ou qu'on aménage des étages hors sol.
Oui.
Et il y a des conséquences à ça. On les aménage, on bâtit avec des matériaux qui sont les mêmes, qui sont hors sol. Il y a des conséquences à ça. Si on a parlé beaucoup dans le passé très récent, d'efficacité énergétique. Et pour ceux qui ne sont pas déjà rendus là, il y a du gros retard parce que ce n'est plus le discours actuel. Maintenant, on s'en va beaucoup plus vers la résilience des bâtiments et de l'empreinte carbone. Ceci dit, l'efficacité énergétique reste toujours là et c'est pas incompatible. Il va falloir additionner ces défis-là.
Oui, quand vous dites des matériaux de sous-sol qui ressemblent à des matériaux qu'on utilise hors sol, c'est quel genre de matériaux?
Ben, tout ce qui est carton, déjà en partant.
Carton?
Ben oui, tout ce qui est fibre de bois, tout ce qui est maçonnette, ces éléments-là. Quelque chose qu'un Saint-Bernard bave dessus et le matériau gonfle, là, pour vous donner un exemple, c'est peut-être pas approprié.
Ah non.
un cinéma maison à 50 000 $ dans un sous-sol, oui, c'est peut-être pas optimal. On va plutôt prôner la simplicité, le minimalisme au niveau du sous-sol. Je vais donner un exemple bien simple. Il n'y a pas si longtemps que ça, on faisait systématiquement des faux planchers dans les sous-sols pour ne pas avoir les pieds.
Oui, ou froid.
Pourquoi cacher la dalle de béton? Les penthouses les plus luxueux à Montréal sont directement sur une dalle de béton exposée. Pourquoi qu'on ne fait pas ça dans le sous-sol?
Parce qu'on a froid aux pieds.
Parfait. Au lieu d'avoir des plaintes de chauffage qui sont dans le bas des murs, pourquoi qu'on n'a pas un système de chauffage incorporé à la dalle de béton qui serait à l'abri des refoulements d'égouts, par exemple?
Oui, on va s'en parler de tout ça. Donc, Madame Levasseur, à votre tour, pouvez-vous nous identifier peut-être quelques enjeux sociaux, environnementaux des inondations pour les populations et les bâtiments plus vulnérables?
Sans vouloir répéter ce que Bernard mentionnait, bon, c'est sûr que les enjeux sociaux, environnementaux ou humains, il y en a plusieurs, ils vont être liés notamment à la santé des personnes qui habitent dans les maisons. On peut parler d'hypervigilance dans les personnes qui ont déjà vécu une inondation. Donc, les gens vont toujours avoir cette peur que l'aléa revienne et de repasser à travers ces événements-là à maintes reprises. Un feu, par exemple, pour faire une analogie, il peut arriver qu'une maison passe au feu, mais après ça, la situation géographique-là de cette maison-là, sauf si bien sûr on est proche d'une forêt, n'est pas un facteur de récurrence.
Oui.
Alors qu'une maison située dans une zone inondable ou située dans une zone en cuvette, par exemple, ben il y a une forte probabilité de récurrence de l'aléa. Donc, il y a cette hypervigilance-là qui peut être à long terme très, très épuisante. Aussi, souvent dans des maisons qui ont déjà été inondées, il peut y avoir des risques de développement de moisissures, donc il peut y avoir un risque pour la santé. Il y a d'autres types d'enjeux aussi qu'on parle moins souvent par rapport aux inondations. C'est toutes les personnes qui vivent sans ancrage au logement, dont les personnes en situation d'itinérance ou des personnes qui ont des statuts plus précaires, qui peuvent se déplacer souvent de lieu en lieu, parfois même habiter à l'extérieur dans des zones qui pourraient être inondées, mais aussi ces personnes-là peuvent être parfois relocalisées dans des logements abordables. Donc, c'est déjà des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, mais en plus habitent des logements qui sont parfois en sous-sol ou mal adapté. Donc là, il y a comme une addition qui se fait dans le niveau de vulnérabilité, dans le fond. Au niveau de la maison, il y a plein... des inondations peuvent causer aussi à chaque fois des très, très grandes quantités de déchets. Donc, au niveau environnemental, les aléas d'inondation ont un très fort impact. Seulement à Mascouche, lors des événements du 9 août, le maire de Mascouche, M. Guillaume Tremblay, disait qu'il y avait eu 4 ans de déchets qui ont été produits en un seul aléa. Donc, pour un site d'enfouissement qui avait encore une durée de vie utile de 10 ans, on vient de raccourcir sa vie d'un 4 ans. Donc, c'est considérable. Donc, il y a énormément aussi de GES qui vont être liés à la gestion de ces matériaux-là qui vont être mis au rebut et traités comme des déchets dangereux.
Oui, ça fait beaucoup. J'aimerais qu'on parle peut-être de la nouvelle cartographie des zones inondables qui devrait être adoptée d'ici la fin de l'année. Il y a déjà de la grogne au sein de certaines municipalités, mais l'actuelle cartographie serait désuète, n'est-ce pas, Monsieur Deschamps?
En fait, oui, les cartes qu'on utilise présentement sont datent essentiellement de 2005. Il y a plusieurs raisons qui militent en faveur de nouvelles cartographies. Puis pour juste donner un exemple, là, dans les inondations de 2017-2019, il y a plusieurs zones qui ont été inondées. En fait, 54% des zones inondées en 2017-2019 étaient à l'extérieur des cartes existantes. Ah. Ça fait juste montrer que le risque existe aussi ailleurs que sur les cartes qu'on connaît maintenant. Oui, fait que c'est essentiellement super important là, que ces cartes-là se voient le jour. L'enjeu qu'on a présentement, c'est pas tellement sur la cartographie, mais bien sur l'application de la réglementation qui suit ces cartes-là.
Dans certaines zones, oui. Mais c'est aussi une question d'emplacement pour le bâti, M. Lassalle. Si on sait que c'est une zone inondable, peut-être qu'on va faire un peu plus attention ou peut-être pas bâtir.
Oui, tout à fait, mais on parle beaucoup des cartographies pour les zones inondables, mais il existe aussi de la cartographie au niveau de cuvettes. Et puis ça, il n'y a aucune réglementation à l'égard de ça. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas construire, mais il faudrait construire autrement dans
mais
ces éléments.
Rappelez-nous ce que ce sont les cuvettes.
Les cuvettes, ce sont des espaces où le niveau sous le niveau du sol, là, dans le fond, ne permet pas la percolation. Donc, il y a vraiment des accumulations d'eau, comme des lacs souterrains, si on veut. Et on en connaît, on les connaît pas toutes, mais on en connaît énormément. Les villes connaissent les cuvettes sur leur territoire et il n'y a pas d'adaptation au niveau de la réglementation de construction à ce niveau-là. Pourtant, c'est quelque chose de facile, on le connaît, on est capable de gérer ça.
Oui, et donc c'est cartographié à quelque part, ou ça existe à quelque part dans les municipalités, dans les...
Oui, pour donner un exemple, à Ville de Montréal, on peut marquer cartographie, cuvette, Ville de Montréal, et on va le trouver là en 15 secondes sur Internet.
Madame Levasseur, donc là où on construit, c'est aussi important. Là, vous, vous travaillez sur le développement du programme de résilience climatique depuis 2020. Donc, est-ce qu'on est résilient au Québec?
On n'est pas encore résilient. Par contre, les esprits s'alignent bien présentement pour développer des outils. En fait, depuis 2020, je vois un changement de paradigme un peu. Il y a quelques années, en fait, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, on parlait d'atténuation des risques, de communication des risques, donc, mais on ne parlait pas du tout d'adaptation. Même quand moi j'arrivais avec un discours qui prônait l'importance d'adapter, on me disait c'est défaitiste, il faut atténuer les aléas. Mm-hmm. Alors que selon moi, la résilience, ben c'est une médaille à deux côtés. Donc d'un côté, on atténue, certes, mais de l'autre côté aussi, on développe les manières de s'adapter. Je pense que les deux sont complémentaires. Aussi, il y a quelques années, comme je disais, on parlait de communiquer le risque. Donc, de plus en plus, les gens sont conscients, sont sensibilisés à ces risques-là. Par contre, on ne travaillait pas sur la communication des stratégies d'adaptation. Je vais encore parler en images, en analogie. C'est un peu comme d'aller voir un professionnel de la santé, il nous fait un diagnostic. Bonjour, Madame Isabelle, je suis désolée de vous apprendre que vous avez un cancer. Voilà, bonne chance. Donc, avec aucun remède, avec aucune aide financière, avec aucun support psychologique qui vient. Donc, présentement, on travaille avec beaucoup de collaborateurs de différents niveaux gouvernementaux afin de développer ou accompagner les organisations dans le développement de services d'accompagnement pour mettre en œuvre la résilience. Donc, présentement, c'est pas encore réalisé, cette résilience-là. Par contre, il y a des bons indices qui démontrent qu'on va pouvoir se doter des moyens pour le faire dans un avenir assez rapproché.
Oui, on se souvient encore des inondations de 2019. Elles avaient touché donc 240 municipalités, fait plus de 10 000 sinistrés. On a encore les images de Sainte-Marthe sur le lac, là, dans les Laurentines, qui nous reviennent, là où une digue avait cédé. Là, il y avait 50 rues, les pieds dans l'eau. Là. Donc, qu'est-ce qu'on a appris sur les inondations donc, de 2017 et de 2019? Est-ce qu'on a appris, M. Deschamps?
Bien, on a appris qu'il fallait faire des nouvelles cartes, ça, c'est sûr. Mais je pense que ces événements-là ont pour effet de sensibiliser la population puis de faire réaliser que le risque existe. C'est vrai qu'on fait des progrès à cet effet-là, mais on sous-estime quand même beaucoup le risque. Puis ce qui est pas nouveau, mais un phénomène qu'on s'aperçoit là, qui se développe, c'est justement les inondations urbaines, notamment causées par les cuvettes dont on vient de parler. Avant, pour nous, les inondations, c'est le débordement d'une rivière. Donc, si on était près d'une rivière, on était plus à risque. Mais là, en 2024, on s'est aperçu que la rivière, ça n'avait pas beaucoup à jouer dans le risque aussi. Mm-hmm. Donc, je pense que tout ça est nécessaire pour se sensibiliser. Puis, de notre côté des chercheurs, tout au moins, on espère qu'il va y avoir des mesures qui vont être prises pour justement atténuer ce risque-là. Puis les travaux qu'Hélène fait présentement sont exactement dans cette lignée-là. Là. Comment on peut rendre ces bâtiments-là plus résilients? Parce que la pluie va tomber, les rivières vont continuer de déborder. Mm-hmm. Fait que comment on adapte nos bâtiments pour réduire les conséquences économiques, mais aussi les conséquences sociales. Là. Si on n'est pas expulsé de notre maison pendant 3 mois parce qu'on peut l'habiter, parce que l'eau est rentrée et ressortie, ça fait une grosse différence. Là.
Oui, on peut penser aussi aux égouts. La ville de Montréal, je veux dire, qui ont débordé aussi. Là. Donc, peut-être, M. Lassalle, comment renforcer la résilience des résidences et de ceux qui habitent?
Ben oui. Merci pour cette question-là qui me permet de compléter ce que Bernard vient de dire, parce que oui, la pluie va continuer de tomber, oui, on va continuer à avoir des épisodes comme ça, mais en plus de ça, les infrastructures publiques vont continuer d'avoir des échecs. La vérificatrice générale du Québec qui disait les pannes d'électricité, juste par exemple, vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues. À ce moment-là, là, on parle d'inondation ici, mais ça peut être autant des conditions, exemple l'hiver, comment je peux faire pour rester plus longtemps dans mon bâtiment. Un nouveau terme de résilience qui va rentrer, le déphasage, pour conserver plus la chaleur. Mais également, si on veut revenir aux inondations, ben si j'ai pas d'électricité, mon puits d'assèchement, il fonctionne comment? Je devrais avoir minimalement une batterie de secours, minimalement, pour être capable de faire là. Et même là, c'est pas suffisant. Lors du passage de débit, il y en a plusieurs, le puits d'assèchement fonctionnait, mais le réseau de la ville est en défaillance, n'est pas capable d'absorber. Je ne peux plus seulement me fier au gouvernement, c'est-à-dire à ma municipalité, à ma ville, pour être capable de gérer ces surplus d'eau-là. On est rendu avec une responsabilité individuelle également de protéger le bâtiment et d'évacuer, d'avoir un plan B en cas de défaillance qui n'est pas possible, qui est probable, voire même assuré avoir arrivé.
Parlons un petit peu justement des mesures techniques. Alors, il y a des systèmes d'évacuation d'eau, des matériaux résistants à l'eau.
Ce qu'on pourrait dire à ce moment-là, il y aurait peut-être trois niveaux qu'on pourrait dire pour se protéger. Le premier, c'est d'avoir le moins d'eau possible à gérer. Fait que s'assurer d'avoir des pentes au niveau du terrain qui éloigne l'eau, première chose à faire, tout à fait. Pour l'eau qui va avoir réussi quand même à se rendre jusqu'au pied des fondations, il faut s'assurer qu'elle rentre dans le puits, il va falloir s'assurer qu'elle est capable d'être évacuée. Donc, c'est là que je parlais. S'il n'y a plus d'électricité, ben, je dois avoir une batterie de secours. Et puis, si la ville n'est pas capable de gérer cette eau-là, d'être capable de l'expulser ailleurs sur le terrain à ce moment.
Un plan B,
tout à fait. Et le troisième niveau de protection qu'on peut avoir également, quand il y a des tempêtes annoncées comme débit, peut-être il y a des mesures supplémentaires qu'on peut utiliser, bloquer les drains de plancher, même de bloquer la toilette, ces choses-là, le drain de douche, qui sont des mesures vraiment juste temporaires, mais on pourrait avoir trois couches de protection. Et malgré ça, on ne sauvera pas 100% des cas.
Non. On a vu ces derniers temps des barrières anti-inondation aussi, des choses à mettre au bas des portes, etc.
Mais ça, c'est très bien en cas d'inondation par rapport à un débordement d'eau, mais dans le cas d'un réseau municipal qui est déficient, l'eau, elle rentre, est déjà à l'intérieur, donc ces barrières-là ne sont pas suffisantes. Pour le cas qu'on a parlé des digues à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, par contre, ça aurait été et c'est de plus en plus accessible.
Entendu. Madame Levasseur, vous avez dirigé des initiatives novatrices comme celle Cohabiter avec l'eau, donc le premier état des connaissances sur l'adaptation des bâtiments aux inondations du Québec. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces stratégies-là?
Oui, dans Cohabiter avec l'eau qu'on a publié en 2021, c'est seulement un état de la connaissance. On peut voir qu'est-ce qui se fait à l'échelle globale, mondiale, quelles sont les stratégies qui existent. Donc, c'était un peu plus théorique. Oui. Depuis ce temps-là, on a développé des fiches techniques qui expliquent comment mettre en place certaines mesures. C'est un outil qui demeure un outil de sensibilisation pour donner à voir certaines possibilités. Par contre, c'est pas un outil qui permet de mettre en œuvre de manière autonome complètement certaines mesures. C'est toujours important d'aller voir des entrepreneurs qui sont formés, de consulter des ingénieurs, des architectes avant de mettre en place des stratégies. On parlait tout à l'heure avec Marco de s'assurer d'avoir des clapets anti-retour, de s'assurer de fermer les ouvertures, mais c'est pas des stratégies qui vont fonctionner dans tous les maisons, puis même ça peut causer parfois des dommages plus grands que de vouloir bloquer l'eau à tout prix. C'est arrivé encore là le 9 août avec le passage de débit, une maison sur le bord du Richelieu, donc sur un sol d'argile. L'argile, c'est très, très imperméable, donc ne permet pas l'accumulation d'eau. Donc, il y a eu une telle pression sur une maison complètement étanche dont les clapets étaient fermés, qui a littéralement implosé. Donc, au centre du sol, la dalle, c'était une maison qui était super bien faite, là, une dalle, plancher chauffant, vraiment des matériaux choisis, donc pas de faux plancher, tout ça. La dalle s'est soulevée, donc tous les murs au sous-sol ont aussi fendu, les cadres de porte sont tout ouverts, il y a eu des problèmes au niveau de la structure du premier plancher, tellement la force a été grande. Il y a d'autres cas aussi sur l'île de Montréal, donc des triplex, encore là, que les clapets anti-retour, les avaloirs, les ballons dans les avaloirs, tout a très, très bien marché pour empêcher l'auto-inondation les refoulements d'égouts. Mais cela a provoqué une auto-inondation. Donc, c'est l'eau qu'on accumule sur le toit qui a remonté, donc la colonne, dans le fond, est montée en charge. Donc, l'eau n'est pas venue des égouts, mais par contre, c'est l'eau du toit qui est sorti par les lavabos, même jusqu'au rez-de-chaussée. Donc, on pouvait voir au rez-de-chaussée, je parle même pas du sol, des geysers de 60 cm, tellement la pression était grande. étant donné que les clapets fonctionnaient peut-être un peu mieux. Fait que parfois, c'est peut-être bien de, quand on parle de
cohabiter
avec l'eau, mais c'est aussi de prévoir des lieux de débordement, des lieux où on va dire, OK, s'il y a une telle pression, c'est peut-être bien de nous d'absorber ou de gérer une certaine quantité d'eau. Et si, par exemple, on est sur le bord d'une rivière, puis la rivière rentre dans la maison, puis je sais pas, il y a 90 cm d'eau qui rentre au sous-sol, faut pas tout de suite la sortir non plus. Ça veut dire probablement que la nappe phréatique autour du bâtiment est remplie d'eau. Donc, si on vide trop rapidement l'eau, il peut avoir là encore une pression hydrostatique sur les murs. Donc, il y a comme une implosion vers l'intérieur, donc un bris dans la structure même du bâtiment. Fait que c'est pour ça qu'avant de mettre en place des protections, il faut vraiment bien connaître son contexte, il faut comprendre par où l'eau arrive, quel type de sol sur lequel notre maison se situe. Fait que c'est pas le dossier pour une seule personne.
Non. J'aimerais qu'on qu'on parle des sous-sols aussi.
Mais oui, pour réagir avec ce que Hélène dit, en effet, puis on a même vu, exemple, une maison à Sainte-Marie ou à Saint-Joseph-de-Beauce qui avait été entièrement...
Cuvelé
au complet. Oui. Donc, c'est-à-dire faire une piscine à l'envers, que l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Mais la maison, il n'y a pas eu d'eau à l'intérieur, mais elle a levé au complètement comme un bateau. Quand on est dans des zones comme ça, dans des cuvettes, l'idée de cuvelage, ce ne sont pas des bonnes idées. Dans une cuvette, on ne fait pas de sous-sol, point à la ligne.
Oui, mais justement, est-ce qu'il faut interdire les sous-sols? Peut-être, M. Deschamps.
Ben, je pense pas que pratiquement on puisse interdire les sous-sols. Là,
dis-moi les sous-sols aménagés en cinéma maison.
Ben, je pense qu'en fonction du niveau de risque, c'est à ça que ça sert la cartographie aussi, là, c'est d'identifier ce risque-là. En fonction du niveau de risque, on peut définitivement réglementer l'utilisation du sous-sol et aussi son existence. Évidemment, dans les zones à haut risque, je pense que ça serait une bonne pratique d'éviter les sous-sols, puisque de toute façon, encore une fois, selon des données qu'on a, plus de 80% des dommages sont causés au sous-sol. En éliminant le sous-sol, ben, on va réduire quand même une bonne partie des dommages. Mais interdire...
Peut-être pas.
Une pratique qui existe ici là, depuis toujours, et on a besoin des sous-sols pour loger du monde aussi. Là.
Oui. Monsieur Lassalle, interdire les sous-sols?
Là, présentement, aussitôt qu'on fait une construction d'habitation, systématiquement, on ne se pose pas de questions, on se fait un sous-sol. Faudrait peut-être réfléchir, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce sous-sol-là? Et est-ce que je suis dans une zone propice à ça? Si la réponse est non, bien, on n'en fait pas. Bon, ceci dit, il y a quand même des avantages à avoir du sous-sol. Le principal avantage étant, c'est du pied carré pas cher.
Ben oui.
Au Québec, on est une société qui est, au niveau canadien, on est celle qui a le moins accès à la propriété. Fait que chaque élément qui permet de l'abordabilité, l'accès à la propriété, avant de retirer ces éléments-là, c'est un pensisibien.
Mais il y a beaucoup de gens qui vivent au sous-sol aussi, qui ne sont pas dans des maisons, qui sont dans des appartements. Mais il y a des gens au sous-sol. Donc, est-ce que c'est là qu'il faudrait envisager votre technologie de mur parfait, quelque chose qui pourrait...
Le mur parfait, ça, c'est un concept qui est surtout pour les murs hors sol, mais dans un sous-sol, déjà là, on répète toujours des recettes qui ont bien fonctionné, mais qui ne sont pas optimales. Pourquoi qu'en 2024, on isole encore les sous-sols par l'intérieur? Or, tout ce qui est institutionnel, commercial, industriel, les fondations, on les isole par l'extérieur. Un isolant qui est posé à l'extérieur, qui a un dégât d'eau à l'intérieur ou qui n'en est pas, ça ne change rien dans sa durée de vie. Ça, c'est un exemple bien simple. En plus de ça, on parle de résilience. Si j'isole ma fondation par l'extérieur, bien, mon mur de fondation va toujours être alentour de 20 degrés. L'été, il va aider à garder ma maison fraîche. Et l'hiver, même en cas de panne d'électricité plus fréquente et plus longue, mon sous-sol, mon mur, ma masse thermique de fondation va me permettre de garder ma maison beaucoup plus confortable.
Oui.
Donc, plus longtemps.
Donc ça, c'est une autre technologie. Madame Levasseur, est-ce qu'il faut éliminer les sous-sols? Vous en pensez quoi?
Pour l'instant, bon, pour revenir sur ce que mes collègues nommaient, on est dans une crise de logement. Donc, c'est difficile pour le moment de dire on sort tout le monde des sous-sols. Par contre, ce que je crois qui devrait être fait, c'est minimalement pour les nouveaux projets de développement, d'interdire les logements nouveaux avec des fameuses cours anglaises. Du moment qu'on est dans une zone inondable cartographiée ou du moment qu'on est dans une zone en cuvette. La zone en cuvette, là, juste pour revenir un petit peu là-dessus en ville, c'est juste pour que ça soit encore plus clair, c'est comme un bain. C'est une dépression dans la topographie dans laquelle, dans le fond, c'est un point bas dans la ville. Donc, il y en a plusieurs au centre-ville. Vous pouvez imaginer, mettons, de la côte Sherbrooke à Montréal jusqu'à remonter vers Notre-Dame, par exemple, il y a vraiment un creux. Donc, c'est propice à des inondations par ruissellement. Donc, l'eau coule dans ces zones-là. Et c'est souvent les points les plus bas. Et dans les points les plus bas, c'est aussi là où souvent les collecteurs municipaux sont situés. Donc, c'est là aussi où convergent tous les eaux souterraines qui sont dirigées dans les égouts de la ville. Donc, ça devient un point à la fois géographique qui ramasse l'eau, mais aussi où convergent les eaux de plusieurs quartiers parfois. Donc, je pense que c'est la base d'arrêter d'émettre des permis pour la construction de des logements qui seraient seulement en rez-de-chaussée. C'est sûr qu'on peut garder des sous-sols dans des maisons pour des maisons qui ont plusieurs étages et conserver certaines utilisations des sous-sols pour de l'entreposage. Bien sûr, pas dans des boîtes de carton, mais idéalement dans des étagères avec des parties en métal ou en bois massif qui soient une certaine hauteur. Aussi, si on garde des appareils électroménagers au sous-sol, comme une laveuse, une sécheuse, les mettre sur un podium d'au moins une trentaine de centimètres pour qu'il y ait une certaine accumulation au sous-sol. Au moins, on ne brise pas tous les appareils.
On réglera ça. Monsieur Deschamps, très rapidement, le rôle des assureurs, parce qu'on termine l'émission.
Oui, le rôle des assureurs, c'est d'offrir une garantie contre différents risques, notamment les inondations. Oui.
Mais si la personne décide de bâtir dans une zone inondable, est-ce que tout le monde devrait supporter ça?
c'est la grande question. C'est pas juste une question d'assurance, c'est aussi une question de programmes gouvernementaux. Le gouvernement du Québec, présentement, il y a quelques années, a limité les garanties en instaurant une limite à vie. Donc, pour les gens qui sont inondés à répétition et qui font des demandes d'indemnité à répétition, il y a une limite maintenant. Ça vise justement à décourager les gens à se réinstaller dans la zone inondable.
Oui. Ou reconstruire du moins avec des matériaux appropriés.
Ouais, mais honnêtement, il y a quelques personnes là, qui désirent rester dans cette zone-là, qui vont améliorer leur sort, là, souvent surélever la maison et faire des choses. Mais c'est pas la majorité. Il y a les gens qui ont les moyens de faire ça, qui peuvent le faire, et les autres ne font pas.
Les personnes aussi plus vulnérables. Donc, merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Bernard Deschamps, ex-dirigeant de compagnie d'assurance et doctorant en sciences de l'environnement de l'UQAM, de Marco Lassalle, directeur du service technique et rénovation de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, et d'Hélène Levasseur, directrice recherche et éducation chez Architecture sans frontières du Québec. On vous mettra les liens. Voilà donc pour aujourd'hui. Comme toujours, Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio-VM. À la régie, encore et toujours, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine et aussi à la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Bien sûr, vous pouvez réécouter l'émission si vous l'avez pris en cours de route ou si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à la partager. Tout comme à visiter la page de l'émission sur le site de Science Presse. Je vous souhaite tous et toutes de passer une très belle semaine à notre antenne.
Est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique